Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Y a des soleils, y a des nanas.
Cinérama l'été.
On va s'enfourrer jusqu'à là.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
On se passe de l'actualité.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Je m'en fous.
Cinérama l'été, trois séries pour vous contenter.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival. On a fait le choix cet été de vous proposer trois séries bien différentes et d'écarter complètement l'actualité du cinéma. Mais il y a des films dont on ne peut pas éviter de parler. C'est par exemple ceux qu'on a beaucoup appréciés. Et il y en a un que j'ai beaucoup apprécié qui sort sur les écrans. C'est le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui a été le prix du jury du dernier Festival de Cannes. Mais donc nos séries, moi c'est sur le générique, je vous parlerai de James Bond. Toi Manu, après avoir parlé de Coralie Farja qui a remporté un prix à Cannes, tu parles d'une autre réalisatrice française qui en a remporté un aussi.
C'était un peu logique que je parle donc de Julia Ducournau et ce sera Titane, même si j'avais hésité avec son premier long métrage, Grave, mais comme Titane a remporté la Palme d'Or il y a 3 ans, donc ça me semblait quand même une bonne idée.
Oui, fait. C'est bien d'y revenir. Et puis toi Guillaume, un film donc qui a vu 2024.
Oui, encore un, c'est Real Life, du assez méconnu mais pourtant absolument brillant Matteo Gil.
Et c'est par cela que nous allons commencer cette émission.
Cinérama.
Attention, Cinérama. Tout le monde à l'écoute. Attention.
Comment certains films ont vu 2024.
Disons que c'est de la prémonition.
Et d'ailleurs, j'aime tellement Matteo Gil et je suis tellement triste de voir qu'en France, il soit si peu connu que j'ai décidé de faire un petit mash-up de déclarations d'internautes sur Real Life, justement, que bien sûr, j'ai retissé pour en faire une chronique tout à fait suivable. Mais voilà, parce que on parle pas assez de Matteo Gil, là, c'est l'occasion. Donc, Real Life. Plus d'un siècle sépare la naissance naturelle de Mark Jarvis de sa résurrection. Alors à l'âge de 33 ans, le diagnostic d'un cancer incurable a poussé ce jeune homme à envisager tous les moyens possibles pour prolonger son étincelle de vie. Au vu des avancées scientifiques médicales du début du 21e siècle, la cryogénisation est apparue comme la solution miracle lui donnant à la fois l'espoir de perdurer au-delà de sa mort s'il pouvait être guéri et un ultime but de reprendre le contrôle dans le chaos ambiant de sa maladie. Lorsqu'il revient à la vie en 2084, en tant que tout premier homme ressuscité de l'histoire, Marc ne renaît pas malgré les apparences mises en place par des chercheurs lors de sa procédure de réveil. C'est un cordon ombilical synthétique qui le relie à une machine, dont il reprend simplement là où tout s'est arrêté pour lui. Même si son corps n'est plus biologiquement le même, Mark Jarvis est toujours bel et bien Mark Jarvis avec sa conscience, avec ses sentiments, ses souvenirs et surtout cet ultime doute qu'il a eu avant de mettre fin à ses jours et qui va désormais le ronger de l'intérieur, celui de ne pas avoir tout fait pour profiter de ses derniers instants en compagnie de l'amour de sa vie.
Imaginez que vous venez au monde en ayant conscience de tout ce qui vous entoure. En ayant conscience que vous sortez du corps de quelqu'un auquel vous êtes accroché par un cordon sanglant. En ayant conscience que vous êtes recouvert de sang. En ayant conscience de l'air sec qui pénètre vos poumons pour la première fois. En ayant conscience des sons aigus dans vos oreilles, de la lumière qui vous éblouit. En ayant conscience que vos os sont terriblement mous et que votre vie est si fragile qu'elle pourrait s'éteindre d'un instant à l'autre. Eh bien, ressusciter, ça ressemble à ça.
Dans son deuxième long métrage en tant que réalisateur, le scénariste attitré d'Alejandro Amenábar et petit génie méconnu, beaucoup beaucoup trop méconnu, Matteo Gil nous raconte le parcours de son héros selon le chaos chronologique de sa mémoire et la force de leur impact sur le sens de sa destinée. Alors parmi tous ces événements constitutifs d'une existence, la rencontre de Marc avec son âme sœur Naomi surnage sous la forme d'une histoire d'amour vécue en décalage pendant des décennies et celle-ci va devenir la lanterne du présent de Marc. Stark pour se retrouver dans l'obscurité de ce futur hein, où son statut de cobaye d'une révolution scientifique passe maintenant avant tout. Alors ce n'est pas étonnant hein, que ces sensations soulignent la parenté hein, de Real Life avec une autre créature ayant défié les limites de la mort, la créature de Frankenstein dans le roman du même nom. Alors comme dans toute bonne variation autour de ce mythe hein, dont Real Life pourrait être la réactualisation SF et existentialiste hein, parce qu'il y a aussi le fameux « It's alive » prononcé ici mais détourné par la créature elle-même, ben la prise de conscience totale de Mark sur la fatalité de la prolongation de son existence ben passera forcément par une confrontation avec son créateur, ben mettant en lumière ses agissements et son regard de savant fou autour de la résurrection de sa créature et un projet surréaliste qu'il ambitionne afin de lui donner une raison de vivre à tout prix. Alors même si ce retour à la vie n'a rien d'un miracle pour celui qui le subit, la justesse invariable que possède Matteo Gil pour nous le raconter, elle en est un.
Oui, t'as raison, je suis d'accord. Il y avait des problèmes au début. Mais la cryogénisation n'est plus quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, il suffit d'être bien préparé. Par exemple, pour l'argent... Je vais prévoir bien plus. En fait, je vais mettre en dépôt tout mon fric.
Qu'est-ce qui te fait dire que quelqu'un dans le futur voudra te ressusciter? Toi ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs. La planète sera complètement surpeuplée. Tu seras comme un type du 19e siècle. Franchement, où est l'intérêt, à moins de vous utiliser pour la science?
De ce va-et-vient permanent entre la lumière d'une existence passée et les ténèbres d'une résurrection remise en question, se dessine le portrait fascinant d'un homme submergé par le regret d'un mauvais choix l'ayant privé de sa fin heureuse. Alors à l'instar de la créature du roman de Mary Shelley dont on a parlé, qui se réveillait avec une parfaite conscience, le personnage de Mark nous emporte dans le flot d'émotions contradictoires issues de ce choc irréconciliable entre une vie qui n'a jamais connu le point final qu'elle méritait et une seconde chance qui n'a que faire des apparences faute de véritable motivation pour s'y épanouir. Alors tiraillé entre la tornade dévastatrice de sentiments bruts communs à toute vie humaine que Matteo Gil saisit avec une aisance déconcertante et les questionnements métaphysiques découlant de la situation extraordinaire de ce héros désormais anachronique, l'approche intimiste de Real Life impressionne par son habileté à envelopper de tous ses tenants et aboutissants réalistes le thème de l'immortalité si récurrent et sujet à tous les délires du registre SF.
Mon nom est Mark Jarvis et je suis le premier homme à avoir été ressuscité. En résumé, voilà ce que je suis. 20% d'organes vitaux et de tissus restants de mon ancien corps. Principalement le cerveau et le reste du système nerveux. 65% d'eau, de muscles, de peau, de terminaisons nerveuses et d'organes clonés. 10% d'implants bioniques pour renforcer le système moteur et les organes sensoriels. Et 5% de contrôle conçu pour réguler et surveiller le fonctionnement correct de l'organisme. Ajoutez à ça un système de connexion externe, un cordon ombilical amovible, relié à ma nouvelle mère mécanique la plupart du temps. Le Dr. West et son équipe ont dû faire face à d'innombrables problèmes depuis ma réanimation.
C'est le moment, Marc.
Chaque solution a été... insupportable. Chirurgie, prélèvement d'organes, coma artificiel, contrôles externes des constantes vitales, prise de médicaments pour éviter les effets indésirables, d'autres médicaments pour atténuer les effets des premiers, etc. 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 Le résultat est un organisme extrêmement fragile, constamment sur le point de s'écrouler. L'homme de laboratoire. Le monstre de Frankenstein.
Très bien.
Fantastique. Très bien, Marc.
Fantastique.
C'est génial. Vous avez vu ça? Je marche. Voilà, c'est doucement.
Mais on peut aussi voir les choses sous un autre angle. J'allais mourir. J'allais disparaître. À jamais.
Prenez votre temps, c'est très bien.
Et je suis de nouveau en vie.
Allez-y.
Allez-y, c'est très bien.
Je suis en vie.
Attention, c'est bien. Restez bien concentré, tout ira bien.
Je suis en vie.
On vous tient, tout va bien.
Vous vous en sortez très bien, Marc.
voilà.
Il en ressort un film parvenant à nous émerveiller sans cesse par la vérité qui s'en dégage, utilisant toujours avec pertinence de grandes réflexions existentielles pour les rattacher au sort d'un seul individu et exploitant pleinement toutes les opportunités de ramification que lui offre un tel récit imprégné sur toutes les strates du mal-être de son héros afin d'aller jusqu'au bout de son propos au risque de désarçonner par sa noirceur et certaines directions prises. Alors évidemment, le message qui en découle sur la nécessité de privilégier l'instant présent avec celle ou celui que l'on aime peut paraître un peu simpliste par rapport aux grandes interrogations que le film effleure, mais il est logique et la seule solution possible lorsqu'on le ramène à la hauteur de ce qu'il vit et son cheminement qui lui permet de réaliser ce qu'il a préféré fuir plutôt que de vivre. Bon, et puis ensuite, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent dans le cinéma de science-fiction. Je pense en particulier à Cloud Atlas qui lui aussi fait de l'amour le centre total de toutes ses destinées qui s'entrecroisent et qui se vivent à différentes époques. Donc voilà, au-delà de la destination, c'est en réalité ce voyage qui est le plus passionnant, le plus bouleversant. Real Life, c'est franchement une petite pépite de SF intimiste passée injustement inaperçue lors de sa sortie. Je crois qu'il est sorti dans très 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 peu de salles en France. J'ai pas fait le compte, mais voilà, c'est peu de chagrin. Mais par rapport à tout ce que Matteo Gil a apporté au cinéma espagnol et international, parce que il accompagnait Amenábar dans ses à la fois ses grands succès, mais aussi ses films malheureusement moins bien reçus. Moi, je pense qu'il est temps qu'on la redécouvre pour la faire renaître à sa juste valeur cette petite pépite.
Bien fait d'en parler. Bien voilà, maintenant nous allons passer au générique, autre série estivale de Cinérama, et on va se fixer sur James Bond, parce que s'il y a bien une saga qui met en avant le générique, c'est celle de l'agent secret.
Cinérama. Cinérama.
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?
Une petite histoire du générique.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Difficile pour cette série estivale sur le générique de ne pas parler d'une saga donc qui a fait du générique une marque de fabrique, très reconnaissable, James Bond. Le film sur le célèbre espion combine deux éléments très appréciables pour un long métrage, la présence d'un générique qui donne une valeur ajoutée au film et une séquence inaugurale. Une mission qu'achève l'agent secret avant d'entrer dans la nouvelle histoire. Les génériques de James Bond sont déjà identifiables à leur musique. Évidemment, il y a le thème principal du compositeur britannique de musique de film Monty Norman, arrangé par John Barry, qui est toujours utilisé et modifié. Et ça commence avec Dr. No en 62. Ce thème sera ensuite arrangé par des artistes aussi différents que John Zorn ou Moby. Un générique qui va annoncer les suivants. Alors si le premier générique de James Bond, Dr. No, est plutôt abstrait, faisant apparaître des ronds de différentes couleurs, les suivants vont vraiment changer la donne, imprimant un même motif, celui de la femme. Pour Bon baiser de Russie en 63, les mentions parfois colorisées vont s'inscrire sur le corps d'une femme placée dans l'ombre. Pour Goldfinger, le principe est repris, mais le symbolisme va plus loin. L'érotisation alors est moins présente, mais le corps des femmes revêtues d'une couleur dorée vont être le réceptacle d'images prises dans le film que l'on va voir. Cela a tout d'une bande-annonce, c'est un bijou. Alors pour On ne vit que deux fois, qui suit, les femmes sont encore très présentes et apparaissent en nombre chinois sur des images de fond dominées par la lave en fusion, chaud, ce sera chaud. Principe d'ombre chinoise repris pour Au service de sa majesté, avec toujours des éléments du film qui vont suivre. Le générique est une amorce au récit. Pour Les diamants sont éternels en 71, le diamant est la figure centrale du générique que l'on retrouve évidemment sur le corps des femmes et même d'un chat ou qui scintille pour lui-même. Le corps féminin, son érotisation comme l'illustration de la violence, du danger avec la présence d'armes, ne quittera plus les génériques de James Bond. Dans L'espion qui m'aimait, une femme fait de la gymnastique sur le canon d'un pistolet comme s'il s'agissait d'une barre fixe et des femmes soldats avancent en bikini. Meurt un autre jour est un tournant dans la saga James Bond. Il débute avec des scorpions, se poursuit alors avec des femmes évidemment, et des images de Bond en mauvaise posture prises dans le film. Il y a une profusion d'images et de sens sur une musique, la chanson Die Another Day, qui est interprétée par Madonna.
No, I'm gonna kiss some part of I'm gonna
Le générique de Casino Royale qui suit est aussi en rupture. On retrouve le cercle représentant l'intérieur d'un canon de pistolet. Ça, c'était Dr No qui l'avait inauguré. Et là, dans celui-ci, Daniel Craig se positionne pour nous tirer dessus. La suite, c'est un ensemble de motifs liés au jeu. Alors, la société a changé car il n'y a plus de corps féminin lascif, juste un visage. Pour Quantum of Solace, James Bond et son flingue sont les personnages centraux. Pour Skyfall, James Bond est d'autant plus important que c'est la dernière apparition de 007. Femme, flamme, ombre, tête de mort, tombe, le générique tisse une destinée. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. La musique du générique est d'Adèle. Alors, une autre saga a une musique caractéristique, hein, c'est Mission Impossible, c'est toujours la même qui est utilisée, celle de Schifrin. Les films bénéficient de longues scènes d'introduction ou pré-génériques. Hein, pour le dernier opus, Dead Reckoning, qui est un bijou, le générique ne débute que 27 minutes après le début de la séquence. Ce générique, comme les autres de la franchise, nous fait voir des images du film, nous met en bouche comme si la séquence d'introduction n'avait pas suffi. Nous aurions pu parler de la Panthère Rose car le générique fait apparaître le dessin d'une Panthère Rose qui n'apparaît pourtant jamais dans le film. Le générique est ludique avec une panthère qui se mêle au générique rajoutant des mentions. Dans le film de 75, la panthère fait des clins d'œil au cinéma en mimant Chaplin, Mickey ou Frankenstein. Ce générique est presque un élément à part, un plaisir à prendre indépendamment de l'œuvre qu'il est censé présenter. Pour Star Wars, on en a déjà parlé, la musique est toujours la même et le procédé également avec les textes qui posent l'épisode qu'on va voir. Pour Indiana Jones, le parti pris a été de placer les mentions du générique durant une scène d'introduction. Le seuil entre la réalité de la salle de cinéma et l'œuvre est vraiment très mince. Il faut déjà être prêt. Pour Pirates des Caraïbes, il faut se contenter du titre. Il n'y a pas de générique. C'est le même procédé pour Le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est la tendance. Hein. Beaucoup de grosses productions américaines se refusent à placer un générique et préfèrent une entrée en matière directe en se contentant de renseigner le public sur le film qu'il va voir. Le titre du film peut aussi juste venir ponctuer une scène d'introduction, comme c'est le cas pour Dune, par exemple. Cette manière de faire est bien plus agréable que la manière française, entre guillemets, qui vise à enchaîner les logos et les mentions sans qu'il ne se passe quoi que ce soit à l'écran, comme si le spectateur pouvait bien patienter. Le cinéma français, mais pas que, hein, se plaît à éprouver notre patience. Autre série de tout cet été dans Cinérama, celle sur les réalisatrices françaises de cinéma fantastique. Et nous allons parler d'un film qui a marqué, c'est Titane.
Cinérama. Les réalisatrices françaises de films fantastiques.
Mais c'est le rêve des ménagères.
Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout.
Avec le recul, hein, si Titane n'est peut-être pas à la hauteur de sa palme d'or, un véritable piège à con pour les jeunes cinéastes controversés, le geste radical de Ducournau ne méritait pas un tel rejet d'une partie des fans de cinéma de genre. Ce geste a le mérite d'être clair, ne faisant pas dans la demi-mesure, et surtout il s'écarte radicalement de son premier film Grave. Pourtant, le prologue fait écho à Grave, s'ouvrant par un accident de voiture, hein, une introduction en miroir qui montre une certaine arrogance de la jeune cinéaste, sauf que ce début n'est qu'un leurre. La suite résonne comme un électrochoc, magma d'une rare puissance cinétique et d'une violence inconfortable quand elle ne vire pas à la complaisance. Alors revenons à l'accident, hein. Un homme conduit une voiture, à l'arrière sa fille au comportement turbulent agace le père, elle donne des coups de pied dans le siège avant, l'agacement laisse place à l'énervement et inévitablement c'est le drame. La voiture percute un arbre laissant une trace de sang sur la vitre. Résultat, plus qu'un choc crânien, l'enfant se voit greffer une plaque métallique au-dessus de l'oreille. 20 ans plus tard, Alexia, gogo danseuse dans les milieux interlopes, hein, s'accouple littéralement avec les formes métalliques d'une voiture dans une séquence à l'humour grinçant où surgit le fantôme de Christine. Personnage taiseux et énigmatique, Alicia est aussi une serial killeuse vénère. Elle trucide toutes les personnes qui tentent de la séduire, jusqu'au jour où sa vie prend une direction différente. Elle prend l'identité d'une personne disparue.
Il y a un truc qui va pas ?
Non, non, mon commandant, on fait connaissance. On l'emmènera voir les camions après.
Je vais vous donner un tuyau, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà, le sapeur Legrand, c'est mon fils. Moi, je suis quoi pour vous ? Je suis Dieu. Donc le sapeur Legrand, c'est pas simplement votre frère, c'est Jésus. Et Jésus parlera quand il aura quelque chose à nous dire. Et nous, on l'écoutera, compris? Oh! Compris?
Oui, mon commandant.
Alors comme ça, ça va.
Les 30 premières minutes ne laissent aucun répit aux spectateurs. Succession de meurtres graphiques, hein, bâton de cheveux transperçant les oreilles, coups de couteau à multiples reprises, chaises performant le visage. Les scènes gore s'enchaînent. Hein. Julia Ducournau cherche une légitimité dont finalement elle n'en a pas vraiment besoin. Ce désir de choquer n'est pas sans maladresse et donne de sérieux arguments à ses détracteurs, subissant alors un spectacle chic et choc aux effets gratuits. Le même défaut peut être reproché à sa consœur, d'ailleurs Coralie Farja. Hein. Heureusement, dans ces moments d'ailleurs puérils, on est peut-être du côté, on va dire, d'une sorte de Gaspard Noé au féminin. Heureusement, la suite prend une direction très différente, laissant l'émotion envahir l'écran comme une contamination que l'on n'aurait pas vu venir dans ce film viscéral et organique à la sensualité crue qui rappelle le cinéma de Claire Denis. La brutalité du début finit même par trouver une justification. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une histoire de rédemption, celle d'une jeune femme animée de pulsions de mort qui va s'ouvrir doublement à la vie. D'une part, grâce à celle qui est en elle, mais aussi par l'arrivée d'un père de substitution.
Ah, pauvre, 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 dans quoi tu t'es foutu? Si tu veux profiter de ton petit confort ou je sais pas quelle raison dégueulasse qui te pousse à rentrer dans son délire de merde, tu fais ce que tu veux, mais tu t'occupes de lui. Regarde-moi. Tu t'occupes de lui. Il n'y arrivera pas sans quelqu'un, toi ou n'importe qui. Dis-le.
Titane se transforme alors hein, en un mélodrame frontal et éprouvant, à la sensibilité à fleur de peau. Ducournau filme les corps meurtris, fracassés, les visages ravagés par la douleur, afin de faire naître l'émotion qui surgit là où on ne l'attend pas. Elle s'empare d'un sous-genre, hein, le body horror, pour développer une romance improbable et singulière, située en fait dans un milieu masculin érotisé, jouant sur la frontière poreuse de l'identité sexuelle pour arriver à un dépassement tragique. Alors pour filmer cette odyssée de larmes, de sang, de flammes, d'acier et de chair, elle dirige deux comédiens impeccables, Agathe Roussel, fascinante silhouette androgyne, et puis Vincent Lindon, hein, magnétique, même si exposant son corps vieilli et blessé. Alors, dommage qu'on ne comprend toujours pas toujours ce qu'il dit, mais ça c'est un peu habituel chez lui. Hein. Mais l'alchimie fonctionne entre les deux comédiens, hein, valorisée par une mise en scène immersive, entre expérimentation sonore et visuelle, et puis un mauvais goût assumé. Alors, Julia Ducournau souffle froid et chaud, le grotesque et le sublime, ne craint pas le ridicule dans lequel des fois elle tombe tête baissée, mais sa love story moderne finit par toucher. Le naturalisme, en partie du moins de grave, laisse place ici à une déflagration de bloc filmique aux aspirations arty. Ducournau s'éloigne du réel, s'engouffre dans une histoire quasi mythologique, elle magnifie par le simple pouvoir des images, de la musique et du montage. Alors, Titane n'est pas un film d'horreur qui regarderait tellement le genre de haut, contrairement à ce qui est dit, hein, mais plutôt une œuvre sensible et hypnotique, la confirmation d'une cinéaste singulière, alors qui accouche d'un film monstre très inégal, mais assez passionnant.
Eh bien voilà, nous parlions de Titane de Ducournau qui avait remporté la Palme d'Or, c'était en 2021, oui, à Cannes. Et maintenant, ben on va se quitter avec un film qui aurait pu remporter la Palme d'Or 2024. J'aurais souhaité qu'il l'obtienne, celle-ci. C'est le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez. Il a quand même remporté deux prix, hein, le prix du jury et le prix d'interprétation féminine.
Il a déjà eu une Palme d'Or avec 10
palmes. Oui, mais bon, il y en a d'autres qui en ont eu plusieurs. Voilà. Allez, nous parlons d'Emilia Pérez.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
En arrivant un peu à la bourre cette année au Festival de Cannes et demandant quelle était la tendance, il n'y en avait que pour un film, Emilia Pérez de Jacques Audiard, un long métrage qui semblait faire vraiment l'unanimité, un film dont je ne savais rien, hein, mis à part qu'il se déroulait au Mexique et qu'il y avait dans le casting Selena Gomez. Les séances étaient prises d'assaut, mais à force de persévérance, eh bien, j'ai pu m'installer dans une salle pour voir ce bijou de cinéma. Jacques Audiard, alors, n'est pas le premier venu, hein, à Cannes, on le connaît, un prophète aurait pu remporter la palme, qui a finalement échu à Dipane. Et à 72 ans, eh bien, le cinéaste a rompu avec son cinéma en nous offrant eh bien, cette fois-ci une comédie musicale. Plus remarquable encore, celle-ci se déroule dans l'univers des cartels mexicains et plus étonnant encore, à la tête de ce cartel se trouve un homme qui veut devenir une femme.
Buenas noches. Nos conocemos.
Abogada.
C'est à Rita... Zoé Saldana, une jeune avocate brillante mais sous-payée, hein, que le chef de cartel, un type imposant tatoué de partout, avec qui on n'a pas envie de passer une soirée Scrabble, qu'il est demandé de dégoter le chirurgien qui va accomplir ce qu'il recherche depuis si longtemps. Alors pour devenir une femme, ce chef redouté n'hésite pas à se faire passer pour mort auprès de sa femme et de ses enfants. Alors vous me direz, chef de cartel est un métier à haut risque, donc c'est plutôt facile. Payée des millions, l'avocate va accomplir sa mission. Elle pense en être libérée quand une certaine Emilia prend contact avec elle. La métamorphose a eu lieu, mais avec elle, le vide. Emilia veut revoir sa femme et ses enfants. L'avocate dévouée va l'accompagner dans cette démarche. Emilia se fait passer pour la tante du défunt Caïd, et voilà qui contente tout le monde. La veuve est pleurée et les enfants qui reçoivent peut-être l'attention qu'ils n'ont peut-être jamais eue. Car c'est là le nœud du film, son élan merveilleux. En changeant de genre, l'individu change aussi sa manière d'appréhender le monde et de s'y conduire. Fini les crimes, place à la justice. L'objectif de l'ex-narcotrafiquant est de faire la lumière sur tous les disparus du Mexique, tous ces crimes de masse qui nous arrivent régulièrement aux informations. Tout cela dans un mouvement de comédie musicale bien envoyé. Jacques Audiard ne se conforme pas à un seul genre, la comédie musicale, mais brasse aussi le film noir, le mélodrame, la comédie de mœurs. Il se conforme parfaitement au code des narcos. Alors on sait que le cinéma d'Audiard est traversé par la violence, mais aussi parfaitement à celui de la comédie musicale qu'il connaît moins. La grande réussite d'Emilia Pérez est son sujet très actuel, la transition de genre et son traitement. La mise en scène d'Audiard alors est légère, enlevée, se resserre sur ses protagonistes. Les séquences sont brillantes sans être extravagantes comme ce pourrait être le cas pour une comédie musicale. L'autre grande réussite d'Audiard est de se rendre très accessible sans renier l'élégance et la pertinence. Alors côté comédie musicale, le réalisateur a su s'entourer avec pour la chanson le duo formé du compositeur Clément Ducol et de la chanteuse Camille. Et puis côté chorégraphie, le franco-belge Damien Jallet qui est habitué à travailler avec Madonna. Alors comme l'a dit une consoeur en voyant Emilia Pérez, on a l'impression de voir le film d'un jeune réalisateur. Oui, Jacques Audiard est loin, très loin de faire son âge. Nous écoutons le réalisateur français durant sa conférence de presse au Festival de Cannes.
Le premier confinement a servi à quelque chose. Vive la Covid. J'ai lu un roman de Boris Razon qui s'appelle Écoute, et dedans il y avait un chapitre qui parlait d'un personnage de narco qui voulait changer d'identité. Et ce n'était pas développé dans le roman, alors je me suis permis, moi, de le développer. Voilà, c'est venu comme ça. Mais c'est venu d'abord sous forme d'opéra. Enfin, c'était, je pensais que c'était un opéra. Et ça a mis du temps à devenir un film. Oui, c'était un opéra tout ça, mais pourquoi au Mexique et pourquoi donc en espagnol ? Quelque chose me choque énormément au Mexique, c'est tous ces problèmes de disparus, des féminicides qui sont vraiment une chose épouvantable. Toutes ces régions où on ne peut plus prudemment aller parce qu'elles sont dangereuses. En fait, la chute de la démocratie est une chose qui est insupportable pour moi. Et donc, je me disais, tiens, quitte à faire une comédie musicale, quitte à ce que ça chante et à ça danse, autant faire ça à partir d'une tragédie. Voilà. Pour moi, ce n'est pas un film de documentation. Il pourrait y avoir des documentaires beaucoup plus documentants. Voilà. Moi, c'est une lecture de la littérature mexicaine, peut-être de l'écoute de la musique, et puis pas mal de cinéma aussi. Mais sinon, je crois que l'imagination a vraiment sa part là-dedans. C'est une façon de ressentir les choses. Voilà, c'est pas... J'ai presque un mois, c'est un rapport poétique avec le Mexique. C'est fait de exactement ce que disaient mes amis tout à l'heure. C'est à la fois... Il y a quelque chose de schizophrénique dans le Mexique qui est très tentant. Voilà.
C'était Jacques Audiard pour Emilia Pérez, film prodigieux sur les écrans depuis le 24 juillet, qui a remporté le prix du jury, le prix d'interprétation mérité au dernier Festival de Cannes.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, ce sera la dernière émission estivale. On va clore chacun nos séries, moi sur le générique, avec des génériques tout simplement que j'ai plutôt apprécié. Et vous ?
Moi, ce sera à nouveau avec un film fantastique réalisé par une femme, avec un film moins polémique que les précédents, qui s'appelle donc Les Cinq Diables de Lisa Misus.
Et toi, Guillaume ?
Oh, ce sera un drôle d'objet qui s'appelle The Last Days of American Crime.
Ne nous manquez pas, la semaine prochaine, à bientôt.